Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir et merci pour cette invitation.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours personnel et politique ?
Bon, je vais le faire bref. J'ai commencé en tant qu'humanitaire, spécifiquement en Afrique subsaharienne et auprès des populations sans-abri en France. Et puis reprenant des études, j'ai ensuite enseigné en particulier à l'université quelques années, en faisant en parallèle une carrière d'officier de réserve. Et puis par la suite, j'ai travaillé en entreprise en tant qu'analyste géopolitique, également en ayant une entreprise que j'ai créée. Et puis par la suite, je me suis engagé en politique auprès de Jean-Luc Mélenchon quand il avait quitté la France insoumise. Et j'ai été assez rapidement son conseiller international des défenses avant d'être élu au poste de secrétaire national au Parti de gauche et puis de porte-parole sur ces questions-là lors de la campagne présidentielle de 2017.
Vous vous présentez à l'élection présidentielle en vous réclamant à la fois du général de Gaulle et de Jean Jaurès. En quoi ces personnalités inspirent-elles votre vision de la France et votre programme politique ?
Et voyez-vous, je crois que le programme que l'on propose, qui est un arc politique qui va de ce qu'on appelle la gauche républicaine, c'est-à-dire chevet-dentiste, pour faire simple, au gaullisme social et majoritaire dans le pays. Et c'est cet arc-là qui allie amour de la patrie, défense de la patrie, de la France, de sa culture, de son identité, mais qui l'allie à la défense de la République sociale, chère à Jaurès, qui est ce qui fait l'originalité et la grandeur de la France qui, je considère en ce moment, s'aborder en particulier par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. C'est cet arc politique qui a dessiné peut-être le plus beau moment politique de ces dernières décennies en France, je pense au Conseil national de la Résistance. Il a encore une fois, pour simplifier, a réuni les Français qui vont du Parti communiste au général de Gaulle. Eh bien, ça a fait la grandeur de la France, que voulait le général de Gaulle, qui parle au monde, qui est d'une certaine manière non aligné, puisqu'il ne participe pas comme membre intégré de l'OTAN, qui a fait de la France une nation cadre spatiale, une nation cadre nucléaire, un grand pays industriel, et en même temps, c'est ce pays magnifique où nous avons des solidarités, la retraite par répartition, la sécurité sociale. C'est ça la France, et voilà ce que je défends.
Donc vous êtes un souverainiste plus proche des idées de Jean-Pierre Chevènement et d'Arnaud Montebourg que de Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot.
Oui, exactement. Ça s'appelle le souverainisme social.
Alors vous dites que la France doit reprendre le contrôle de son destin. Selon vous, quelles leçons faut-il tirer de la crise sanitaire, Georges Kuzmanovic ?
Mais justement, la crise sanitaire a été un grand révélateur, j'allais dire même un déciateur pour beaucoup de Français. Avant la crise, souvenez-vous, le mot souveraineté ou souverainisme était brocardé. Ce qui est tout à fait étonnant puisque le titre premier de la Constitution française est dit de la souveraineté. Certains l'ont oublié, je crois. Mais tout le monde s'est bien rendu compte avec cette crise que, eh bien, ils sont dans un pays qu'ils pensaient puissant et qui ne parvenait pas à fabriquer de masques. Ils parviennent toujours pas d'ailleurs, soit dit en passant, de gel hydroalcoolique, des choses très simples, mais a du mal à réagir rapidement pour fabriquer des respirateurs. Au contraire, par exemple, notre voisin allemand ou de la Corée du Sud. Un pays qui s'en sont rendu compte qu'il ne produit pas de médicaments, ou quasiment plus de médicaments. C'est-à-dire que 80% des médicaments que nous consommons, y compris des médicaments stratégiques, qui ont considérablement manqué dans les salles de réanimation, proviennent de Chine ou d'Inde. Or, on voit les risques avec les tensions géopolitiques actuelles avec la Chine, et bien que ce pays puisse faire pression sur la France. Imaginez que la Chine ne soit pas contente des positions que pourrait prendre la France à son égard, eh bien, il pourrait faire une pression en ne livrant pas certains médicaments. Et donc, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il fallait relocaliser l'économie. Et de toute façon, ça fait sens dans un contexte de crise climatique et de soucis de décarboner l'économie. Donc je pense qu'il faut relocaliser l'économie, réindustrialiser le pays, et en commençant par tout ce qui est stratégique, c'est-à-dire l'énergie, les transports, et bien évidemment le sanitaire.
Oui, l'énergie, les transports, le sanitaire, vous souhaitez par exemple que la France nationalise à nouveau l'électricité, le gaz ?
Oui, nous vivons actuellement une catastrophe sur le front de l'énergie. Différents gouvernements, en particulier celui-ci, ont sabordé EDF suivant les injonctions folles de l'Union européenne qui demande le démantèlement d'EDF. Ils ont créé une concurrence qui n'est pas libre et qui est faussée. On vient de le voir avec M. Bruno Le Maire qui exige, pour que la facture ne soit pas trop salée pour les Français, les factures d'énergie de cet hiver, exige que EDF vende en dessous des cours du marché de l'énergie qu'elle produit, elle, avec nos centrales nucléaires, à des concurrents qui, eux, ne produisent rien et qui vont vendre plus cher aux Français. On marche sur la tête. Tout cela va coûter à EDF, c'est-à-dire aux Français, entre 6 et 8 milliards. Et de toute façon, nous avons déjà des factures de plus 12% pour les Français et qui vont encore augmenter de 4%. Mais tout ça, ce n'est que retenir le tsunami qui arrive l'année prochaine. L'énergie, les factures seront doublées pour les Français. Or, comme vous le savez, la moitié des Français se battent toutes les fins de mois avec 50 à 100 euros. Ce sera une catastrophe. Donc, bien évidemment, il faut renationaliser, faire un pôle national et public de l'énergie et qui organise la distribution de l'énergie tant pour les Français en subventionnant l'énergie pour les plus faibles de nos concitoyens. Je rappelle qu'aujourd'hui, 12 millions de Français ne se chauffent pas cet hiver. C'est terrible. Et aussi, aider nos entreprises. Car vous le savez aussi, certaines entreprises sont en train de mettre la clé sous la porte, car le coût de l'énergie est trop important. Donc oui, c'est impératif.
Et parmi les mesures que vous proposez, Georges Kuzmanovic, en ce qui concerne la santé, vous souhaitez créer une industrie pharmaceutique publique. L'idée, c'est que l'État ne dépende plus du privé, comme on l'a vu sur la question des vaccins.
Eh bien, ne dépendent plus ni du privé, en tout cas pas seulement, ni surtout de l'étranger. Car là, nous sommes pieds et poings liés, on l'a vu avec cette crise. Je le disais tout à l'heure sur les médicaments qui sont souvent en pénurie, c'est-à-dire plus de 600 médicaments, parfois certaines années 900 médicaments sont en pénurie. Par exemple, en août 2019, il y avait une pénurie pendant 3 semaines de cortisone, ce qui est une catastrophe pour beaucoup de malades. Donc, il faut que nous produisions ces médicaments nous-mêmes. Il faut revenir sur le sabordement de l'État et le sabordement de l'industrie pharmaceutique, de toutes ces entreprises qui étaient autour d'Orléans il y a quelques années encore, et refaire un grand pôle public, là également, qui produise des médicaments et des brevets français, et nous permettre d'avoir une résilience lors des futures crises qui, malheureusement, je crois, ne manqueront pas de venir.
Et toujours sur la santé, vous souhaitez basculer vers une médecine de prévention. Vous pensez que sur certaines maladies, on ne se donne pas les moyens de la prévention ?
Alors c'est tout à fait lié à la constitution d'un pôle public sanitaire. Vous savez, nous avions un excellent système de santé. Il est toujours très bon, mais il est en rupture, il est très fragile, comme on peut le constater. Et il est très très axé sur le soin, ce qui est une bonne chose, bien évidemment. Mais s'il n'est axé que sur le soin, eh bien ça a des coûts et parfois on pourrait éviter les maladies. C'est ce qu'ont choisi plusieurs pays scandinaves, où leur population vit plus âgée, en bonne santé, tout en ayant des coûts de santé moindres que dans nos pays. Et évidemment bien moindres qu'aux États-Unis, où tout est privatisé. L'idée est assez simple, c'est qu'il faut bien sûr évidemment maintenir une médecine de soins, mais tant à l'école, dans les universités, que sur le lieu de travail, chaque Français doit avoir une consultation régulière, annuelle par exemple, avec des tests médicaux pour vérifier qu'il n'a rien et prendre à la racine un problème avant qu'il ne se transforme en une maladie grave, qui sera bien évidemment terrible pour le patient et coûtera beaucoup plus cher à la communauté.
Georges Kuzmanovic, vous voulez mettre en place une réserve citoyenne pour tous les travailleurs sans activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mesure? Évidemment, il faudrait des travailleurs volontaires.
Alors, il se fait que le gouvernement, comme vous le savez, se gargarise de bons chiffres du chômage. Malheureusement, ce sont de bons chiffres. C'est ça le mot qui est important. La réalité sociale est beaucoup plus tragique dans notre pays. Et si l'on compte ce que l'INSEE appelle le halo du chômage, c'est-à-dire des gens qui sont un peu au chômage, parfois pas au chômage, et tous ceux qui sont exclus des statistiques, on constate que nous avons en réalité quelques 12 à 13 % de chômage en France et qu'un travailleur sur cinq est dans la précarité. Et beaucoup de nos concitoyens sont dans un chômage très long et ne voient pas de solution. L'idée est que l'État soit pourvoyeur d'emploi en dernière instance sur des travaux d'utilité publique importants et qu'il embauche et remette au travail ceux qui le souhaitent, donc c'est bien sûr sur la base du volontariat, mais qu'il y ait une sorte de garantie, de filet pour les Français et pour ceux qui veulent travailler, parce que je pense que beaucoup de Français veulent travailler, et justement, beaucoup de Français veulent traverser la route pour trouver un emploi. Malheureusement, il ne vient pas, souvent il n'existe pas, et de leur permettre de contribuer à un effort national tout en retournant sur le marché du travail.
Que proposez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, Georges Kuzmanovic?
Alors, le pouvoir d'achat des Français, d'abord, la première chose, une des premières choses que je ferai par décret, c'est l'augmentation du SMIC. Il est maintenant inférieur à nos voisins britanniques. Et je souhaiterais l'amener à 1 500 euros à la fin du mandat avec un coup de pouce très fort immédiat de 10%. Et ensuite engager que l'État, un État que je veux stratège, engage des négociations avec les différentes branches professionnelles pour une augmentation des salaires. L'idée est de faire une relance que l'on dit en économie keynésienne, c'est-à-dire d'insuffler de l'argent public pour relancer une économie qui est à tonne. Notre idée, c'est également, par exemple, de relancer le rail en France, de faire rouler des trains partout où il y a des rails, de rouvrir des gares, afin de permettre au pays de respirer et aux inégalités économiques entre les régions de se résorber. Et puis, bien évidemment, beaucoup de nos problèmes économiques et beaucoup des problèmes des Français seront résolus s'il y avait plus d'emplois. Or, ce qui manque, c'est de l'emploi industriel, car il y a eu trop de délocalisation et trop de dumping social dans l'Union européenne. Et pour y arriver, il faut une dose de protectionnisme intelligent, taxer les importations moins-disantes sociales, moins-disantes écologiques, afin de permettre à nos entrepreneurs de ne pas avoir une concurrence déloyale. Et donc, quand on aura plus d'emplois en France, il y aura plus d'entrées d'argent public et on réglera aussi le problème des retraites.
Georges Kuzmanovic, dans le volet justice de votre programme, vous voulez combattre la délinquance économique et financière. On parle beaucoup des violences, du trafic de drogue, mais on parle finalement assez peu de cette délinquance économique. Pourquoi lutter contre ce fléau est-il important à vos yeux?
Il est fondamental. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre les délinquances du quotidien, en particulier les violences faites aux citoyens. Mais nous vivons une sorte d'organisation du dépérissement de l'État et de la France. Elle se fait principalement par cette délinquance financière qui tout simplement pille le pays. Nous avons un transfert du public vers le privé et même un transfert de fonds de la France vers l'étranger par la voie de l'optimisation fiscale, comme on dit, et de l'évasion fiscale. C'est-à-dire, là on parle de quelques 130 milliards par an. Mon idée est de ne plus mettre de bâton dans les roues fonctionnaires douaniers et de ceux qui perçoivent l'impôt, d'augmenter leurs moyens, de recruter beaucoup plus de percepteurs des impôts et des douaniers, au moins 12 000 pour les douaniers afin d'arriver au même niveau que nos amis allemands, et de leur donner les moyens de traquer ceux qui refusent la solidarité nationale par l'impôt qu'ils devraient dûment payer. Et l'objectif est de, sur un quinquennat, de réussir à récupérer au moins la moitié de ces 130 milliards qui s'envolent en fumée tous les ans, c'est-à-dire quelques 60 à 70 milliards par an. Imaginez tout ce que nous pourrions financer si nous récupérions cet argent qui s'en va hors de France.
De la même manière, Georges Kuzmanovic, vous voulez lutter contre la corruption, responsabiliser les décideurs publics et interdire le pantouflage. Le pantouflage, c'est le fait que, par exemple, un ancien conseiller de ministre finisse par travailler pour une entreprise privée. Tout cela, vous voulez l'interdire?
Oui, on le voit encore avec M. Barouin, qui va travailler à haut niveau pour la banque Barclays. On le voit au niveau européen avec M. Barroso qui s'est mis à travailler pour la banque Goldman Sachs. On le voit avec M. Fillon qui travaille pour Rosneft en suivant ce qu'avait fait M. Schröder. Tout ça est inadmissible. Tous ces gens-là ont bien sûr des talents, ils sont très intelligents, mais ils doivent leur réussite à la France, aux Français, qui leur ont permis, certes ils sont intelligents, et travailleurs, d'étudier, de passer dans de grandes écoles et de se constituer un carnet d'adresses. Et ce carnet d'adresses n'est pas le leur, c'est celui de la France. Et donc, de la même manière que quand on est officier, un homme ou une femme qui veut devenir officier, peut faire par exemple l'école des officiers de Saint-Cyr, quand il en sortira, eh bien, il fait une carrière dans l'armée. Au bout de 10 ans, il ne devient pas mercenaire pour une puissance étrangère et puis revient 5 ans après au service de la France. Ça n'existe pas. On s'engage pour la France. Et donc, je suis... Même pour augmenter les salaires, si c'est un problème de salaire, les salaires encore nés, là, qui sont déjà tout à fait confortables, de la haute fonction publique, mais qu'elle n'ait pas le droit de quand on est haut fonctionnaire, en tout cas pendant un certain nombre d'années, on ne peut pas aller travailler dans le privé et vendre eh bien ce qu'on sait de l'État français. Et puis bien évidemment, il faut lutter contre la corruption. Là, on a atteint des niveaux sidérants, je pense à la vente d'Alstom, à la manière dont a été vendu Alcatel. Et ce qui se passe actuellement avec M. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée de M. Emmanuel Macron et son plus proche conseiller, par exemple dans l'affaire MSC et par rapport à Naval Group. On ne peut plus avoir de dirigeants qui bradent la France, ceci doit cesser.
Dernière question, vous avez été un proche conseiller de Jean-Luc Mélenchon, vous avez été candidat à la France Insoumise en 2017. Sur quoi portent aujourd'hui vos divergences avec le candidat de la France Insoumise?
Et les divergences sont d'abord sur l'Union Européenne, de manière très claire. Monsieur Jean-Luc Mélenchon et l'actuelle France Insoumise ont renoncé à ce qui faisait leur originalité. Le plan A, plan B, qui était résumé par cette Europe, on la change, on la quitte. Moi, je suis resté attaché à une opposition réelle aux institutions européennes qui nous empêchent d'agir, tout simplement, en raison des traités européens. Ils nous empêchent de mener la politique que nous voudrions mener. Et l'autre raison est que je suis un laïc. La laïcité, pour moi, est fondamentale. Les principes de la République, et ceux-là ont été largement entachés, je pense, par des déclarations, des prises de position de responsables de la France Insoumise. Voilà les deux principales raisons qui font que nous ne sommes pas en accord. Et puis il y en a une dernière qui peut-être, ça va vous surprendre, mais la plus importante, c'est que je souhaite la souveraineté de la France. Nous avons une crise énergétique dont nous avons parlé, qui nous arrive, qui va coûter très très cher aux Français. Et nous avons surtout cette crise climatique qui touche toute l'humanité. Et un des seuls moyens efficaces de lutter contre cette crise climatique en décarbonant l'atmosphère, c'est d'avoir une énergie nucléaire et une nation puissante dans le nucléaire. Monsieur Mélenchon, à la France Insoumise, souhaite arrêter le nucléaire. C'est, je crois, une folie qui, en plus, est parfaitement irréalisable.
Merci Georges Kuzmanovic. Je rappelle que vous êtes président de République Souveraine et candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir et merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.